Et je ne sais pas, vous me corrigerez si c'est pas vrai, on m'a dit qu'on pouvait entrer des choses dans la tête de quelqu'un sous hypnose ou même lui effacer une partie de sa mémoire. Est-ce qu'il y a des dangers à hypnotiser un enfant ou même un adulte à quelque part?
Il n'y a pas vraiment de danger en tant que tel si la personne est en bonne santé. Donc, si on ne souffre pas de problèmes psychologiques graves, comme l'épilepsie ou des psychoses, ou si on n'a pas des problèmes cardiaques qui pourraient être déclenchés sous des émotions, il n'y a pas vraiment de grosses contre-indications. Par contre, on ne peut pas implanter des souvenirs chez les gens contre leur gré, on ne peut pas leur retirer des souvenirs. C'est plus de l'ordre de la science-fiction, ces choses-là. Mais il n'est pas dit que, il n'y a pas des gens qui sont plus influençables que d'autres à certains niveaux, mais c'est vraiment très rare.
Et quand vous hypnotisez un enfant, j'imagine que les parents sont quand même pas très loin. Est-ce qu'il faut être seul avec l'enfant à ce moment-là?
Ça dépend du thérapeute. Moi, ce que j'aime faire, c'est les premières rencontres. J'aime ça quand les parents sont là.
Ça sécurise l'enfant aussi, j'imagine?
Ça sécurise l'enfant, puis apprend à me connaître. Et par la suite, c'est lui qui décide. Je laisse le choix. Est-ce que tu aimerais que tes parents soient là ou non? Et des fois, il y en a qui choisissent être seul, il y en a qui choisissent que les parents soient là. Et même chez les adolescents aussi, c'est la même chose. Des fois, l'ado veut être seul, des fois, il aime mieux avoir ses parents.
Et on parle de combien de séances pour régler un problème? Je ne sais pas, disons, un problème de pipi au lit, est-ce que c'est long à régler?
Habituellement, chez les enfants, c'est pas aussi long que chez les adultes. Chez les adultes...
En général,
on peut aller voir du côté d'environ 6 rencontres, par exemple, pour un adulte, pour quelque chose de simple à travailler. Pour les enfants, souvent, les bénéfices sont obtenus à l'intérieur de 3 séances, mais encore là, c'est variable.
Donc, les enfants sont très réceptifs à ça, finalement.
Oui, oui. Puis, il y a des choses moins tangibles aussi avec lesquelles on travaille des fois, comme la concentration à l'école, comment tu évalues ça. Tu sais, si tant que tu n'as pas reçu un bulletin ou une évaluation, tu dois te fier à ce qui t'est dit de l'enfant puis de ce qui est observé. Donc, c'est toujours sujet à interprétation.
Et on peut traiter aussi la douleur avec l'hypnose. Est-ce que vous avez déjà accompagné des enfants dans des opérations chez le dentiste? Ou...
J'ai accompagné des adultes pour le dentiste, pour des opérations, mais pas des enfants à l'heure actuelle. C'est moins demandé souvent chez les enfants, ces choses-là. On ne pense pas toujours à ça. Mais il peut y avoir un travail de préparation qui est fait de la même façon qu'avec les adultes.
Et je le disais tout à l'heure, moi, il y a quelque chose qui me fascine dans l'hypnose. En même temps, je suis très sceptique et je me demandais est-ce qu'il y a des preuves scientifiques à ça, l'hypnose? Parce que là, on parle de tous les problèmes que ça pourrait régler, mais est-ce que c'est...
Mais j'ai une question avant par rapport à ça. C'est, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus réceptives à être hypnotisées que d'autres, d'un? Puis après ça, ben, savoir si c'est sceptique ou pas, ça peut être que ça ne fonctionne pas sur toi. Est-ce que ça se pourrait, ça?
Oui, la façon de le savoir, c'est en faisant des tests de préparation. Donc, les hypnothérapeutes qui sont professionnels, là, ils vont faire des préparations avec les gens. Ils font des tests pour voir si c'est possible pour la personne d'aller en hypnose facilement. Donc, environ 80% des gens vont en hypnose d'une façon moyenne. Et puis, ça prend un petit peu de temps. Quelques séances, des fois, avant d'atteindre des aussi bons résultats que des excellents sujets. Les excellents sujets sont à peu près 10-15% de la population. Il y a des réfractaires aussi. Les réfractaires, c'est à peu près 5%. Et ces gens-là, généralement, c'est des gens qui ont des pensées négatives vis-à-vis de l'hypnose ou ils sont tout simplement trop dans leur logique, tout le temps dans leur tête.
Manque d'ouverture à ce moment-là.
Ouais,
ou de souplesse.
De souplesse, on peut dire comme ça. Mais a priori, n'importe qui est un bon sujet à l'hypnose à partir du moment où on a le goût de se prêter à l'expérience.
Et vous disiez aussi, on s'était parlé un peu avant l'émission, qu'il y avait des études scientifiques qui prouvaient que l'hypnose fonctionne finalement.
Oui, c'est que, depuis les années 60, si on fait une recherche dans PubMed, en fait, qui répertorie toutes les publications au niveau de la médecine, de la science, on trouve 28 000 publications environ jusqu'à aujourd'hui sur l'hypnose. Donc,
dans différents niveaux.
Oui.
Il y en a beaucoup. Bien, merci beaucoup d'avoir été là. Vous avez à votre bureau, ça s'appelle Archétype, qui est une clinique d'hypnothérapie ici à Montréal. Alors, on invite nos auditeurs à aller sur votre site hypnosearchétype.com. On va notre page sur le site de CIBL. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'étais en compagnie de Martin Chicoine, hypnothérapeute.
Merci à vous. Bonne journée.